Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui, avec la Dormition et l'Assomption de la Vierge Marie, une des grandes fêtes de l'Église orthodoxe consacrée à Marie, Marie la Mère de Dieu. Avec la conception de la Vierge, sa nativité, l'entrée au Temple de la Mère de Dieu, l'Annonciation, la Visitation, ce sont toutes des fêtes qui nous invitent à découvrir toujours un peu plus la sainteté de Marie. Mais n'êtes-vous pas étonné comme moi que dans les trois lectures, celle de la Genèse, celle de l'Apocalypse et de l'Évangile de Luc, non seulement nous ne parlons pas de la Dormition ni de l'Assomption de la Vierge, mais que le nom de Marie n'est même pas mentionné une seule fois. Dans les évangiles canoniques, vous ne trouverez pas trace du récit de la mort de la Vierge et de son Assomption, pas plus que celui de sa conception, de sa naissance, ou que la présentation au Temple de Marie. Ce sont souvent des récits apocryphes, où la piété populaire, la tradition chrétienne et liturgique qui nous parlent de Marie. Le récit de l'Ancien Testament, depuis Abraham jusqu'à Marie, est le récit de la préparation du peuple de Dieu à une purification, à un blanchiment des ménages, des mémoires, génération après génération, pour que l'humanité qui s'était détournée de Dieu puisse accueillir la semence divine pour faire naître « Je suis ». Il fallait retrouver un état de virginité, c'est-à-dire une nouvelle manière de regarder, d'écouter, schéma Israël. Et cette manière, c'était pour mettre au monde, comme je vous l'ai dit, je suis. Si Ève avait écouté le serpent, le menteur, brisant ainsi l'alliance que Dieu avait établie avec l'humanité, Marie, elle a toujours été orientée vers Dieu. Elle n'a pas péché. Mais ce fut toute sa vie un travail de sainteté, donner autorité sur sa vie uniquement à l'être divin. Ses parents, Joachim et Anne, ont prié le Seigneur intensément et avec persévérance de leur donner un enfant. Et le Seigneur leur envoya un ange pour leur dire que leur demande serait exaucée et que Anne enfantera. En remerciement, ils décidèrent de mettre leur fille au service du Seigneur. Ainsi, dans l'Église orthodoxe, Marie est bien une femme de la race humaine. Avec la potentialité de péché, elle n'est pas exempte de la faute originelle. L'Église catholique romaine, à travers le dogme de l'Immaculée Conception, promulgué par le pape Pie IX en décembre 1854, avait une autre vision. Et je vous relis un peu ce qui était dit dans ce dogme. La bienheureuse Vierge Marie fut dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute souillure de la faute originelle. Alors ce dogme pose un peu un problème à l'orthodoxie, car cela exclut Marie du lien avec le péché originel et avec le chemin parcouru par toute l'humanité qui la précède. En somme, elle n'est plus des nôtres. C'est une présence hors de l'humanité. Elle devient, peut-on dire, une déesse. De plus, seul le Christ est le sauveur de l'humanité. Et la rédemption a lieu sur la croix et la résurrection. Marie aurait ainsi été une exception pour permettre l'avènement de « Je suis » dans un corps pur. Mais alors se posent les questions, que signifie encore le « oui » de Marie à l'archange Gabriel ? Pourquoi Marie et pas une autre personne qui serait venue peut-être deux siècles avant ou un siècle ou deux siècles après ? La rédemption est déjà donnée à la Vierge ici. Alors que le Christ n'a pas encore accompli son œuvre salvatrice. Mais non, Marie ne fut pas un instrument passif, un jouet dans les mains de Dieu, une manipulation. Ce qui la rend malgré tout unique, ce sont deux choses, la grâce de l'Esprit et son obéissance, son oui dès le début. C'est la synergie à chaque instant entre grâce et obéissance qui la rend unique et fait qu'elle ne succombe pas au péché. Alors pourquoi je vous parle de sa conception lors de la fête de la Dormition ? C'est parce que si elle est déjà, dès sa conception, écartée de la faute originelle et de ses conséquences, la corruptibilité et la mort, en quoi peut-on la prendre comme exemple ? En quoi est-elle la médiatrice ? Est-elle l'échelle sainte, celle qui montre le chemin ? Son fils Jésus, ayant pris la nature humaine, est passé par la mort pour assumer toute l'humanité. La grandeur et l'œuvre salvatrice du Christ ne peut se concevoir sans sa résurrection. Et en désirant aller jusqu'à la ressemblance de son Fils, Marie accepte sa mort terrestre, que l'orthodoxie appelle la dormition. Et ainsi la mort de la Vierge Marie reste inséparée du mystère de la mort de son Fils. Elle a partagé avec lui toutes les étapes de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à son agonie sur la croix, et elle est appelée aussi à la joie de la résurrection. La mort de Marie est aussi relatée dans les écrits apocryphes. Ce sont les écrits du pseudo-Jean le théologien ou du pseudo-Méliton qui ont relaté les événements entourant la fin terrestre de la Mère de Dieu. Et que nous dit cette tradition ? Elle nous dit que lorsqu'il plut au Christ de rappeler à lui sa mère, il envoya un ange, 3 jours à l'avance pour lui annoncer cette nouvelle. Selon certains pères, encore une fois, ce fut l'ange Gabriel qui fut chargé de cette mission. Marie accueillit le message de l'ange avec grande joie, tant elle était remplie du désir ardent de s'élever vers son Fils. Et ici, nous retrouvons la même attitude de Marie que celle qu'elle avait lors de l'Annonciation. C'est le oui. Elle fait confiance à Dieu comme elle l'a fait toute sa vie. La tradition nous dit alors qu'elle prépara ses funérailles. Elle mit tout en ordre et arrangea son lit funèbre. Et Marie fit cette promesse aux femmes qui se lamentaient autour d'elle, et cette promesse s'adresse aussi à nous aujourd'hui, de continuer à les protéger par sa prière. L'histoire nous dit aussi que la maison se trouva remplie de nuées qui amenaient les apôtres et saint Paul rassemblés de toutes les extrémités du monde. Ainsi, c'était toute l'Église du Christ qui, par leur personne, se trouverait rassemblée pour célébrer les funérailles de sa souveraine. Et l'histoire continue et nous dit que la toute immaculée s'allongea elle-même sur son lit de mort. Elle offrit des prières à son Fils pour la paix du monde entier et, souriante, elle remit paisiblement son âme blanche et plus resplendissante que toute lumière entre les mains de son Fils et son Dieu. C'est ce moment que nous pouvons contempler sur l'icône qui est ici devant moi, l'icône de la Dormition. La tradition nous dit alors que Pierre et les apôtres allèrent à Gethsémani, où ils ensevelirent le corps très saint de la Mère de Dieu et y demeurèrent 3 jours. Ensuite, un des apôtres, qui ne se trouvait pas là, et selon certains c'était Thomas, arriva et il ne pouvait se consoler de ne pas avoir pu contempler une dernière fois le corps de Marie. Vous voyez ici l'analogie avec la vie du Christ. Les autres apôtres décidèrent alors d'ouvrir le tombeau et là, stupéfaits, ils constatèrent que le corps avait disparu et que seul le suaire qui l'enveloppait était là et gardait la forme de son corps. C'était pour eux la preuve que son corps était ressuscité et avait été transporté au ciel et qu'elle se trouvait dans l'intimité de son Fils comme l'ange lui avait annoncé. Deuxième analogie avec le Christ. Alors on peut se dire que ce récit soit véridique ou non, importe peu. Un fait est cependant là, nous n'avons pas de relique de la Vierge. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que cela signifie pour nous. Saint Jean Damascène nous dit « Elle qui avait gardé sa virginité intacte de l'enfantement, Il fallait qu'elle garde son corps, même après la mort, exempt de toute corruption. Elle qui avait porté le Créateur dans son sein comme son enfant, il fallait qu'elle aille faire son séjour dans la lumière divine. Cette épouse que le Père s'était unie, il fallait qu'elle habite la chambre nuptiale. Elle qui avait contemplé son Fils cloué sur la croix et qui avait reçu dans son cœur le glaive de la douleur qui lui avait été épargnée dans l'enfantement, il fallait qu'elle le contemple trônant avec le Père. Il fallait que la Mère de Dieu possède ce qui appartenait à son Fils et qu'elle soit honorée par toutes les créatures, comme la Mère de Dieu et sa servante. Rappelons-nous que si Dieu s'est fait homme, c'est dans le seul et unique but de nous élever un jour aussi à la déification. Aujourd'hui, Marie est la preuve, s'il le fallait, que ce but peut s'accomplir pour l'humanité. Comme chacun de nous, Marie n'a de sens qu'à l'intérieur du dessein de divinisation du Père que nous a révélé son Fils dans et par l'Esprit. Marie n'est pas un être humain privilégié. Toute sa sagesse, toute sa gloire est d'avoir été visitée par l'archange, d'avoir, dans l'amour, librement consenti à devenir la Mère de Dieu, à permettre sa manifestation dans le monde. Marie nous a montré le chemin. Marie, c'est l'échelle sainte, le lien entre la terre et le ciel, entre l'Église et Dieu. C'est la porte du ciel, comme nous l'avons entendu dans la première lecture de la Genèse. Notre corps, qui a connu la corruption par le péché d'Adam, va aussi connaître la mort. Mais comme nous l'avons chanté à Pâques, le Christ, par sa mort, a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Avec Marie, c'est toute la race humaine qui est emportée au ciel. Marie, c'est l'Église tout entière qui est déjà sauvée, restaurée dans sa dignité d'enfant de Dieu, ressuscitée pour son salut. Ce que nous dit l'Évangile, ce n'est pas tant d'avoir été le saint qui a porté le Christ qui importe, autrement à quoi bon puisque seule Marie a eu ce privilège, mais c'est d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et pour l'écouter, nous devons devenir réceptacle, tabernacle de l'amour. C'est ce qu'a fait Marie toute sa vie. Je crois que son message le plus important sont ses paroles aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. En suivant Marie, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. C'est un poème de Saint Bernard. Alors une autre petite chose, en français, Marie, c'est l'anagramme d'aimer. À elle et à son Fils, soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen. Amen.